Vous êtes bien à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de chrétienté dirigé par l'abbé Guillaume de Tannouarn depuis notre studio virtuel. Monsieur l'abbé.
Merci Benoît. Et nous voilà dans notre troisième mi-temps avec un roman absolument passionnant. C'est le meilleur que j'ai lu cette année. 2021, et je pense que c'est vraiment un roman d'une très grande ambition et d'une qui est développé avec art et science par un romancier de talent. Il s'agit du livre intitulé Le Messie et signé par François Méronis, livre publié aux éditions Exil au pluriel. Exil au pluriel. J'ai découvert François Méronis, je l'avoue, à travers un grand œuvre qu'il a produit aux éditions Gallimard, Tout est accompli. Et c'était en 2019. Et donc, lorsque j'ai reçu ce livre, Le Messie, je me suis penché avec beaucoup d'intérêt, et le résultat est magnifique. Il s'agit au fond de faire du Messie un personnage accessible à la littérature. Je ne dis pas un personnage littéraire parce que ce serait dépréciatif, mais un personnage accessible à la littérature comme mode de connaissance. François Méronis, bonjour.
Bonjour mon père.
Je ne sais pas si ce que j'ai raconté sur votre ouvrage vous paraît juste.
Ça me paraît très juste.
Il me semble que vous utilisez la littérature comme un mode de connaissance spirituelle, finalement.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que la littérature, depuis un certain temps, est devenue quelque chose d'assez médiocre. C'est-à-dire que il y a dans la société contemporaine une méconnaissance de la puissance du langage. C'est-à-dire que le langage est révélé au statut d'instrument de communication. Donc on a des romans qui s'étalent comme ça et qui au fond racontent des choses triviales, exhibent.
Alors c'est pas toujours mauvais. Moi, je suis de ceux, par exemple, qui pensent que La Familia Grande est un roman qui se défend, mais c'est
oui,
un roman trivial.
C'est plutôt une confession, c'est plutôt une intervention, en fait. Je dirais même une manière de reprendre l'initiative après un naufrage intime, familial.
Vous donc appelez là, ça l'autofiction, non?
Moi, au fond, je n'ai pas d'avis préconçu. C'est-à-dire que ce qui compte pour moi, c'est la littérature. C'est le fait de rejoindre un certain point dans le langage qui recroise aussi la pensée.
Qu'il ne soit pas seulement la communication,
mais la
prédiction.
Mais alors, je pense qu'au fond, et c'est manifeste aujourd'hui, maintenant qu'on atteint, on entre dans les derniers temps, je dirais que la littérature ne peut subsister que comme une branche de la prophétie. C'est ce que je pense profondément. Et donc le roman tel qu'il était conçu encore il y a quelques années s'épuise. Donc on a essayé de le relancer avec l'autofiction, on a essayé de le relancer avec une forme de naturalisme extraordinairement réducteur, où il s'agissait de faire le portrait en fait du petit bourgeois planétaire dans sa décomposition, mais ce sont autant d'impasses sur le plan littéraire, même si dans certains cas ça a pu donner des résultats intéressants, comme chez Houellebecq par exemple. Mais au fond, moi je veux faire tout à fait autre chose. Je veux reprendre, je veux envisager les questions spirituelles, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Ce sont les seules choses qui m'intéressent, au fond.
Mais on s'aperçoit dans la poésie d'Houellebecq que les questions spirituelles ne lui sont pas étrangères tant que ça, finalement.
Vous avez raison, mais Houellebecq est un personnage très étrange. Moi, je ne méjuge pas sa littérature, d'une certaine manière. Je dirais même que ce qu'il fait est important, d'une certaine façon, surtout dans ses romans.
C'est le Balzac d'aujourd'hui, non ?
Alors non, parce que Balzac, c'est au sens plénier du terme de la littérature. Et il est entièrement dans le langage. Houellebecq, il intervient après. Il intervient après la catastrophe. Et ce qu'il essaye de faire, c'est des espèces... Au fond, c'est un artiste post-Duchampien, je dirais, qui se sert de la littérature comme d'un instrument. et il opère à chaque fois, et c'est toujours très brillant, c'est toujours très intelligent, et je dirais qu'il joue un rôle dans l'état de la France aujourd'hui, c'est qu'il a il a une véritable influence. C'est peut-être le seul écrivain contemporain qui ait une véritable influence.
Ça, c'est quelque chose. Oui, parce que on se reconnaît dans son écriture, malheureusement.
Alors, il y a deux points, c'est qu'il se sert il fait un portrait de l'époque. Et il se sert de ce portrait pour nous capturer, en effet, pour nous enfermer dans un état des lieux. Mais ça va beaucoup plus loin, en fait, ce qu'il écrit en général. C'est aussi une conjuration. C'est aussi une, comment dirais-je, une. Il y a pratiquement un dispositif magique. Et alors, il y a quand même chez lui quelque chose qui est ordonné au nihilisme. Et c'est moi ça que j'essaye de mettre à bas d'une certaine façon. Pour moi, par exemple.
Mais dans votre livre, il y a un dispositif magique. C'est même le.
Absolument, absolument.
L'histoire de votre livre, c'est celle d'un dispositif magique.
C'est vrai. C'est un vrai dispositif, en effet. Mais il s'agit justement de conjurer le nihilisme. Il s'agit d'une certaine manière de ramener la parole à sa source. Alors j'ai inventé tout un récit, toute une trajectoire avec des personnages, et ça se termine d'ailleurs à Jérusalem.
On va venir à ces personnages, voilà. Mais j'aimerais que vous nous présentiez peut-être le personnage historique qui vous a inspiré, qui a été, je pense, le détonateur de votre roman, qui est quelqu'un qui a véritablement existé, c'est le rabbi Nachman.
Alors, il y a plusieurs personnages qui ont réellement existé dans mon livre. Alors, effectivement, moi, je m'intéresse beaucoup à une certaine forme de spiritualité juive qui a émergé, on peut dire, au XVIIIe siècle, aux alentours de la Pologne, de l'Ukraine, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Biélorussie. Et c'est ce qu'on appelle la Chassidout. Et le fondateur de ce courant, c'est le Baal Shem Tov. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dont le rabbi est le petit.
J'ai appris beaucoup de choses en vous lisant.
Voilà. Et donc, Rabbi Nachman avait un enseignement. Il y avait autour de lui un certain nombre de fidèles. C'était quelqu'un qui était en même temps assez déconsidéré de son temps. Aujourd'hui, il est reconnu par l'ensemble du judaïsme, mais de son temps, il était vécu comme une espèce de personnage un peu extrémiste, mystique. Enfin, il suscitait une sorte d'inquiétude. Et d'une certaine manière, je dirais, vous voyez, au XVIIIe siècle, vous avez la grande offensive des Lumières. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a deux forces, deux foyers de résistance aux Lumières, curieusement. C'est dans l'ouest de la France, avec la Vendée, au moment où la Révolution française se déclenche, et c'est l'héritage, à mon avis, de Saint-Louis Grignon de Montfort. Et puis, oui. À l'Orient, oui, de l'Europe, vous avez ces gens que les Français, de l'époque en tout cas, ne voient pas, ce sont les communautés chassidiques, qui ont un jugement très sévère à l'encontre des Lumières. Ils refusent radicalement les Lumières. Ils les trouvent, nos Lumières françaises, extraordinairement charbonneuses. Et donc, ils essayent. Alors, il n'y a pas que Rabbi Nachman, il y a beaucoup de rabbim qui sont dans une espèce d'opposition radicale à Napoléon, par exemple. Il y a le Maguide de Kosnitz, il y a le Rabbi Menahem Mendel de Rimanov. Ils sont un certain nombre comme ça à s'inscrire en opposition à ce qui est en train de survenir. C'est-à-dire. L'avènement de ce qu'on pourrait appeler la modernité, d'une certaine manière, les temps modernes. Il leur semble qu'il y a dans cet avènement à la fois quelque chose d'intéressant, mais en même temps un aspect extraordinairement dangereux. C'est d'une façon, rien d'autre que l'orchestration de ce qu'on pourrait appeler la mort de Dieu. Et pour eux, ça leur paraît extrêmement grave. Et d'une certaine manière, toute l'œuvre de Rabbi Nachman, c'est une manière de conjurer cet événement. Et évidemment de le faire sur le plan mystique. Rabbi Nachman avait une confiance absolue dans la parole et dans le libre usage que l'on pouvait faire d'une parole. C'est aujourd'hui quelque chose qui nous semble étrange, exotique, mais il était persuadé qu'un certain usage de la parole pouvait faire pièce à des mouvements de puissance tels que l'Europe était... tel qu'il se produisait à l'époque, c'est-à-dire la guerre.
La parole devient un acte, en fait.
Ah, exactement, la parole devient un acte.
C'est la même chose dans les sacrements chrétiens.
Mais exactement.
Où,
c'est exactement
à travers la parole du prêtre ou du fidèle, se pose un acte.
Et d'ailleurs, j'ai construit un peu mon livre dans cette perspective sacramentelle. C'est-à-dire que mon but, c'est que la parole, effectivement, il y a un récit, évidemment, il y a des personnages, il y a une histoire, il y a aussi un enchevêtrement de réflexion, si on veut, mais pour moi, ce qui compte, c'est que la parole, justement, devienne acte.
Rien n'est indifférent dans votre livre, aucune
Rien.
Page n'est indifférente.
Il y a toujours, et en plus, j'ai essayé de ménager des effets de résonance. C'est-à-dire que tout est là en rapport, tout fait lien, en fait. Et bon, ça demande, effectivement, peut-être une certaine
c'est
concentration.
C'est cousu humain.
Voilà.
Oui, oui, oui.
Et donc il y a des effets de réverbération. Et ce que j'essaie précisément de réaliser, c'est de rendre la parole entièrement vivante, entièrement. C'est de la, comment dirais-je, de la restituer à sa dimension sacrée d'une certaine manière. C'est-à-dire que la parole, ça ne sert pas simplement à communiquer, ça sert aussi, évidemment, à prier, mais elle a un acte propre, donc dont la prière est un.
Et alors il y a non seulement une logique sacrée, mais une logique sacrificielle qui vous rapproche de cette dualité, vous rapproche de ce que c'est que la messe, en fait.
Bien sûr,
à la fois
exactement.
Sacrement et sacrifice.
Exactement.
Je me permets de lire quelques lignes de votre ouvrage. Voilà ce que je désire, pensait Evan Fry, lier les prières déchues s'ignorant absolument comme adjuration au ciel avec les autres prières, de même que Moïse avait agencé entre elles toutes les parties du tabernacle, car c'est ainsi qu'on introduit au royaume en attachant au Messie jusqu'au moindre et au plus petit des vœux humains. C'est magnifique.
Ben c'est le grand enjeu, c'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui ignorent qu'ils sont une imploration vivante. Et ils sont coupés, en fait, de leur propre fin, FIM, de Dieu, en fait. Et au fond, le seul rapport qui leur reste dans l'expropriation qu'ils subissent avec Dieu, ça passe par la fin. Et c'est une fin qui, en plus, n'est pas complètement consciente chez eux. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils ont faim, mais ils ne savent pas de quoi. Ils ne comprennent pas, en fait, qu'ils ont faim de la parole elle-même. Et c'est ça qui leur échappe. Et Rabbi Nachman, en l'occurrence Evan Fry, en se servant de quelque chose que Rabbi Nachman avait essayé d'effectuer en son temps, vers 1810, en reprenant ce qu'il avait essayé de réaliser sur un plan, là pour le coup, spécifiquement religieux, il essaye, en construisant une œuvre d'art, d'agencer toutes ces prières méconnues. En quelque sorte, de les offrir au Messie en tant que tel.
De les nouer dans un sacrifice que
exactement.
Le Messie offrira à Dieu.
Exactement. C'est exactement ça.
Car le rôle du Messie est d'offrir nos sacrifices à Dieu, finalement.
Mais oui,
c'est frappant.
C'est rien d'autre que ça.
C'est
d'une certaine
fond
manière,
de la,
le livre.
Et,
voilà.
c'est présent là dans ce hassidisme
bien sûr, bien sûr.
Que vous décrivez avec tant d'éloquence.
Et ce qui est vrai, c'est que les artistes, on va dire même les écrivains, depuis la fin du XVIIIe siècle, et ça n'est pas à juger moralement, mais c'est un fait, ont fait un pacte d'une certaine manière avec le diable. C'est-à-dire qu'ils ont joué la carte du sacrilège. Et ils en ont remis. Donc il y avait un grand mouvement comme ça.
Vous parlez quelque part des guerriers du sacrilège, je crois.
Exactement, exactement. Et donc les écrivains, les artistes en général, ont été ceux-là pendant un certain temps. Et je pense qu'il y a un point du temps, c'est-à-dire quand le soubassement même du monde, ce qui est le cas aujourd'hui, est la destruction, quand d'une certaine manière la catastrophe est déjà advenue, elle n'est pas devant nous, elle est d'une certaine manière derrière nous, reconduire ce geste, reprendre, si vous voulez, le travail de bataille de Sade et de quelques autres, ça n'a plus aucun sens. Ça se fige dans quelque chose de finalement d'académique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas lire Artaud, Bataille et Sade. Au contraire, il faut les lire, il faut les envisager. Mais être écrivain aujourd'hui, c'est précisément faire radicalement autre chose. Et c'est d'une certaine manière rouvrir la voie du sacré. Ça n'est pas en remettre sur la profanation, mais au contraire, restituer en quelque sorte ce qu'il est possible de sauver au cœur même du monde.
Trouver un langage à travers lequel le sacré se manifeste.
Voilà. Et donc le personnage central du roman qui s'appelle Evan Fry, au début il fait une espèce de chute, c'est-à-dire que c'est une chute vers le haut d'une certaine manière, et cette chute va l'amener au terme d'un long processus au seuil d'une porte qui est la porte du ciel, c'est-à-dire à Jérusalem, très précisément en face de la colline du temple, en face du mont du temple, et c'est là qu'aura lieu l'opération terminale, dont tout le livre est en quelque sorte la préparation.
La préparation. Alors cette chute, j'avais envisagé que ce puisse être une EMI, un état de mort imminente, une façon d'aller aux portes du ciel et d'être repoussé. Il est repoussé de Exactement, la porte oui. du ciel par le rabbin Nachman.
Oui.
Qui le renvoie sur terre pour faire ce qu'il avait essayé de faire, c'est-à-dire oui. pour sauver le monde.